Vous écoutez France Culture.
Et comme chaque vendredi, le monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Vous voulez faire quelques petites mises au point, j'ai l'impression, aujourd'hui, sur les habitudes de langage qui font parfois déraper ou caricaturer les propos ou des journalistes ou des experts, et dire quoi au fond, halte au Yalta de la Machiloutie, au Grenelle de l'escargot de Basse-Bretagne, au Nouveau Munich, attention au Nouvel Hitler. Quelle mise en garde ?
C'est pas une mise au point, c'est une remarque malicieuse. Certains ont été jusqu'à comparer par exemple Poutine à Staline. Et on parle souvent, en effet, dans les relations internationales, de lutter contre un nouvel Hitler, d'empêcher un nouveau Munich, de faire le Yalta de ceci ou cela. Alors je trouve ça assez intéressant parce que d'abord, ça montre une paresse d'esprit parce que chaque cas est différent et les comparaisons sont à peu près toujours fausses.
Comparaison n'est pas raison.
Mais la plupart de ces formules qui sont employées de façon inappropriée sont liées à une espèce d'angoisse affreuse du XXe siècle qui était épouvantable, en effet la première moitié en tout cas, une angoisse affreuse des années 30 qui vont revenir, donc on cherche sans arrêt des analogies, la bête immonde, vous voyez, c'est des automatismes. Alors je ne dis pas que toutes les formules, toutes les références historiques ou culturelles sont absurdes, parce que par exemple, quand on emploie des formules comme « aller à Canossa »,« la Bérégina »,« passer sous les fourches codines »,« franchir le Rubicon », ça peut avoir un sens si c'est employé à bon escient. Mais prenez l'exemple de Yalta, par exemple, un nouveau Yalta. Ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas eu de partage du monde à Yalta. Il y a eu les grandes conférences de la fin de la guerre, quand les Alliés savaient qu'ils allaient gagner sur Hitler à un moment ou à un autre, donc ils préparaient la suite. Eh bien, à Yalta, il y a eu une discussion en effet sur l'Allemagne, comment serait organisée l'Allemagne d'après-guerre, comment elle serait occupée, donc il y a une discussion là-dessus, sur les zones d'occupation en Allemagne et à Berlin. C'est d'ailleurs grâce à Churchill que la France obtient d'avoir une zone d'occupation, parce que Churchill ne veut pas être seul après la guerre, parce qu'il pense qu'il y aura une revanche un jour, comme après 14-18, donc il veut la France en tampon un peu. Donc c'est grâce à Churchill, en fait, que la France est là, qu'elle aura ensuite un siège au Conseil de sécurité. Et sur le reste de l'Europe, il n'y a aucun partage. Et au contraire, Staline s'engage...
Il n'y a pas de marchandage, il n'y a pas de négociation, de je te donne si je prends ça ?
Pas du tout. Le seul marchandage qui avait été tenté, c'était plutôt pendant la guerre, Churchill et Staline qui avaient réfléchi à la répartition des influences dans les Balkans. Là, vous aurez 18%, moi, j'aurais ça. Bon. Ouais. En plus, ça n'a pas été appliqué, c'était inapplicable. Mais à Yalta même, Staline s'est engagé devant Roosevelt à faire des élections libres partout dans les zones d'Europe où c'est l'armée rouge qui allait libérer l'Europe du joug nazi. Alors, on ne sait pas si Roosevelt l'a cru ou s'il était fatigué par la maladie ou s'il a fait semblant de le croire parce qu'il pensait avoir besoin de Staline pour gagner la guerre au Japon. C'était avant la décision de Truman d'employer l'arme atomique pour qu'il n'y ait pas un an ou deux de guerre. En plus, en tout cas, il l'a cru. Churchill était sceptique. Mais il n'y a pas eu de partage du tout. Alors, l'idée du partage est venue à De Gaulle, qui était furieux de ne pas y être, même si Churchill a très bien défendu les intérêts de la France à Yalta, en fait. Et donc, il s'est installé dans l'esprit français, puis s'est répété absolument sans fin. C'est l'exemple le plus caricatural de ce que je citais au début. L'idée que le Yalta, c'est un partage injuste et inique, parce qu'on n'y est pas. Si on y avait été, peut-être qu'on aurait trouvé le partage juste, mais en plus, il n'y a pas de partage. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Mais c'est tout à fait fréquent comme attitude d'esprit. Regardez, on parle sans arrêt maintenant de la chute du mur. Il n'y a pas eu chute. Il y a eu ouverture du mur par un régime au bout du rouleau, à un moment où c'était déjà de toute façon un trompe-l'œil, puisque les Allemands de l'Est pouvaient déjà partir par la Hongrie et la Tchécoslovaquie, depuis des semaines et des semaines, sans qu'il se passe rien. Donc, ils ont demandé ouverture. Moi, j'ai constaté souvent, en faisant des conférences, que beaucoup de gens confondent les images qu'ils ont vues, qui ont lieu le lendemain ou le surlendemain, où les populations de Berlin se précipitent avec des petits marteaux pour récupérer un petit souvenir de mur. Vous avez vu les petits bouts de mur qui circulent, comme si c'était cette masse de gens courageuses qui, à un moment donné, a renversé le mur, un peu comme les murailles de Jéricho, vous voyez. Donc, il y a souvent des choses comme ça. De même que quand on parle du président chinois comme un nouvel empereur, c'est absurde, tout ça est exagéré. Ça n'a pas de rapport avec les pouvoirs réels d'un président chinois aujourd'hui, même si celui-ci développe son pouvoir. On dit qu'il a plus de pouvoir que n'importe quel dirigeant depuis Mao Tse-tung. C'est pas le cas, parce que Deng Xiaoping a eu un pouvoir considérable. C'est lui qui a déclenché l'évolution vers la Chine moderne. Donc, à force d'accumuler les formules de ce type, soit par Donc précipitation, confusion ou ignorance.
Bah, c'est-à-dire que parfois, Hubert Védrine, il faut faire des titres hein, aussi.
Oui, non, mais c'est une bonne explication. D'ailleurs, moi, je ne m'en prends jamais aux gens. Le système fonctionne de telle ou telle façon, mais ce n'est pas du tout une...
Nous recevions hier Jean-Michel Quatrepoint qui signait le choc des empires. Oui. Et qu'il faut rendre hommage, d'ailleurs.
Ben, tant mieux, merci. Et les empires, c'est lesquels?
C'est la Chine, les États-Unis.
Mais c'est des facilités de présentation. C'est comme quand on parle du système monarchique français, c'est absurde de comparer une monarchie au pouvoir du président de la République française, même s'ils sont importants. Donc, une fois, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est pas forcément faux dans tous les cas. Mais à force de s'exprimer comme ça, finalement, on raisonne à coups de clichés, de slogans, ça dispense de penser, et on n'arrive pas à saisir la réalité des choses. Et une des vérités du monde actuel, c'est qu'il est très compliqué à analyser et qui ne ressemble pas à ce qui s'est passé avant. Et la compétition généralisée qui a lieu dans le monde global, où chacun est en compétition avec l'ensemble des autres, n'est pas comparable aux situations d'avant. Et notamment l'analogie que les années 30, qui fait toujours peur et qui inspire les trois quarts donc, de ces métaphores inappropriées, est là comme une espèce d'angoisse. Donc je pense toujours dans ces cas-là à Camus, Albert Camus, auquel je reviens souvent, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».
Le Monde selon Hubert Védrine sur franceculture.fr à vendredi prochain.